Radio Time.
Bienvenue sur
Fréquence à jour.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Time, fréquence Ajon, et merci à ceux qui nous écoutent régulièrement. Nous avons fêté cette année les 30 ans de la grotte Chauvet. À cette occasion, Thomas et Léonard ont interviewé Jean-Marie Chauvet, le pionnier de la grotte portant son nom.
Bonjour Monsieur Chauvet, vous êtes spéléologue plongeur. Vous avez découvert le 18 décembre 1994 la grotte Chauvet, l'une des plus ornées au monde.
Oui.
Comment vous avez connu la spéléologie ?
Disons que à l'âge de 12 ans, j'ai commencé par des petites grottes parce que je lisais les livres de Norbert Casteret, qui est un éminent spéléologue du début du siècle. Et puis voilà, après le virus a été de faire de l'exploration de cavités. Et voilà, après j'ai continué toute ma vie à faire de la spéléologie, qui est une passion, voilà, une de mes plus grandes passions.
Vous avez découvert la grotte avec Christian Hilaire et Eliette Brunel. Comment vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés en 88, quand je suis devenu au ministère de la Culture le gardien des grottes ornées des grottes de l'Ardèche. Donc ça a été ma fonction de vérifier que toutes les portes des grottes ornées des gorges n'ont pas subi de détérioration. Et voilà. Et en fait, les gisements archéologiques, donc sur la surveillance des gisements et des grottes.
Comment vous avez eu l'idée d'explorer cette zone ?
Cette zone, disons que quand on est spéléologue, on recherche toujours de nouvelles cavités. Et dans cette zone du cirque d'Estre, on a fait de la prospection, qui est de chercher des grottes. En fait, on cherche souvent des trous souffleurs, qui est l'indice qui peut présumer qu'il y a une grotte, qui est derrière. Et souvent, il faut faire de la désobstruction. Et dans le cirque d'Estre, donc au Pont d'Arc, il y avait ce léger trou souffleur, Et le 18 décembre 94, nous avons décidé de continuer la désobstruction, et ça a été la découverte du siècle.
Qu'avez-vous ressenti dans la grotte ?
Dans la grotte, on ressent, quand on est descendu après le boyau qu'Eliette Brunel a franchi la première, on s'est trouvé devant un puits, on a été chercher une échelle pour pouvoir descendre les 8 mètres de vertical, et puis là, on est tombé dans une salle qui fait à peu près 40 mètres de diamètre. Et là, on a dit, on est sur une belle cavité, mais on ne pensait pas du tout à une cavité avec des peintures dedans. Donc on pensait que c'est possible qu'il y ait eu du néolithique ou du calcolithique dedans, où on s'attendait à trouver des poteries. Et en fait, non.
Qu'est-ce que vous avez vu en premier, une fois entré ?
Donc nous, on a traversé la première salle, et puis on a retraversé la seconde salle des Bauges, et puis en descendant ce qu'on appelle aujourd'hui la galerie du cactus, Eliette a vu de près à l'ocre rouge et s'est dit, ils sont venus. À partir de là, en se tournant, on a vu un petit mammouth en rouge, et puis le début des peintures, nous ont apparu, on est descendu un peu plus bas et c'est un ours sur la paroi, et puis après ça s'est enchaîné par le panneau rouge, la suite de l'exploration. Mais on s'attendait pas à trouver l'équivalent de Lascaux dès le départ. Après, ça a été pour nous, de suite qu'on a vu le panneau rouge complet, on s'est dit, mais on est sur un Lascaux. Mais on n'avait pas encore vu le panneau des chevaux et puis tout ce qui s'ensuit,
Pouvez-vous nous raconter une anecdote sur la grotte ?
Comme anecdote, ça a été que, moi je disais, dès le départ, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas des chevaux. Et quand on a eu franchi donc la galerie du cierge, on est arrivé dans la salle Hilaire et on était à peu près à 20 mètres de distance et on avait un gros projecteur qui nous a permis d'éclairer le panneau des chevaux. Et là, je me suis écrié, mais des chevaux. Et en fait, ça a été le panneau des chevaux. Et ça reste un moment inoubliable.
Avez-vous déjà regretté d'avoir déclaré la grotte ?
Non, parce que une telle grotte fait partie du patrimoine de chacun et du monde entier. Donc c'est une découverte qui est mondiale, c'est pas une découverte de petites découvertes, voilà, comme on peut creuser un petit peu et trouver un ustensile. Non, la grotte est un témoignage de 360 siècles des peintures, plus la grotte est magnifique. Donc en fait, vous êtes vous languissez en fait d'avoir de la rendre publique et qu'elle soit sous la protection de l'État qui est le seul garant de la pérennité de la protection de cette grotte. Il y a que ça. Voilà. Donc pour nous, c'était pas on regrette rien. Bon, les ennuis d'après, on les a oubliés. Et maintenant, ce qui est important, c'est que il y ait Chauvet 2, qui est la reproduction de cette grotte, et énormément de personnes peuvent voir, à peu près 350 000 personnes peuvent voir les gravures et les peintures de la grotte. Donc aujourd'hui, économiquement pour l'Ardèche et la région, c'est une aubaine, quoi. C'est une locomotive.
Qu'est-ce qui a changé pour vous personnellement d'avoir découvert une telle merveille ?
Oh, mais pour moi, rien. On en est fiers, nous, en tant que spéléologues, de laisser le plaisir d'avoir trouvé cette grotte. Mais pour nous, ça valorise un peu la spéléologie qui est... on est sous terre, donc on ne nous voit pas. Et en fait, valoriser un peu les spéléologues qui sont à l'origine de beaucoup de découvertes, hein, en fait, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour voilà des sites archéologiques, c'est en grotte souvent qu'on trouve... toute cette essence qui nous motive de trouver de nouvelles grottes avec de belles concrétions. Voilà, c'est une passion.
Que pensez-vous de la reproduction de la grotte Chauvet ?
Oh, ben c'est très bien fait. Hein. Aujourd'hui, à mesure, ils améliorent tout le site s'améliore de chaque fois, chaque année, ils font quelque chose et c'est très bien fait. Parce que déjà, ils ont reproduit les concrétions autant que les peintures. Bon, ils ont fait un travail remarquable et dans un temps très court. Puisqu'en 2 ans et demi, ils ont ouvert Chauvet 2. Et pour nous, ça a été... En fait, c'est une récompense pour nous. C'est que, voilà, ça fait partie de la suite de notre découverte qui est transmise à des personnes. Parce que comme on ne peut pas visiter la grotte, qui est sous protection parce que c'est un patrimoine mondial et moins on rentre dedans, moins on fait de dégâts. Mais enfin, elle est très très bien protégée. Donc, pour nous, moins on visite la grotte, meilleur c'est. Il faut la laisser dans son état naturel le plus possible. Et puis, bon, la reproduction permet au public de pouvoir voir ses peintures.
Parmi les peintures rupestres, quelle est votre préférée ?
Ça serait les Lions du Fond. Les Lions du Fond, le regard des lions là de la lionne, pour moi reste ce que j'aime le plus. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement émouvant que il n'y a pas de préférence. En fait, c'est un écrin avec des bijoux dedans. Non, il n'y a pas de distinction. La grotte se suffit à elle-même.
Pourquoi la plupart des grottes ornées en Ardèche se concentrent autour de Vallon-Pont-d'Arc?
Le problème des grottes ornées, c'est la conservation. Donc, dans les gorges de l'Ardèche, le calcaire se prête, donc il est moins micro-fissuré que, par exemple, paille-olive, tout ce qui est ces calcaires du Jurassique, font que, bon, c'est une roche froide. Tandis que l'Urgonien, qui est les gorges de l'Ardèche, c'est plus une roche un peu farineuse, mais qui garde les pigments, et puis voilà, il y a moins de courant d'air, il y a moins d'infiltration, et ça permet de garder l'art pariétal un peu plus protégé. Parce qu'en fait, ce qui détruit les peintures, c'est les courants d'air, la condensation, et voilà, après le froid, l'érosion, c'est ce qui fait que voilà. Et donc, dans les gorges, les grosses sont beaucoup plus étanches que paille-olive ou tous les gras, tout ce qui est vers les vents, tous ces calcaires-là, il n'y a pas d'art pariétal.
La vraie grotte Chauvet est aujourd'hui fermée au public, mais quelques rares personnes ont eu la chance de la visiter. Y a-t-il une liste d'attente ?
Non, parce qu'il n'y a plus de visite du tout. Donc, l'État a décidé de fermer... les visites, donc laisser la grotte intacte, et il n'y a que les scientifiques qui font deux campagnes par an, mais même maintenant, le problème, c'est que vu le CO2, donc le gaz carbonique, quand il dépasse 2,5%, c'est interdit de rentrer dans la grotte. Donc à 3%, on rentre plus dans la grotte. Alors, ce qui fait que maintenant, ils préfèrent laisser la grotte intacte. Pour ceux qui veulent voir, ils vont achever deux. Et voilà, donc les scientifiques travaillent encore un peu de temps en temps, mais ils travaillent quoi, une semaine dedans par an presque, ou 15 jours maximum quand ça s'y prête.
Avez-vous visité d'autres grottes dans le monde ?
Oh oui, moi j'en ai visité partout, hein. Partout dans le monde, j'en ai fait en Autriche, en Amérique, à Cuba, en Espagne, en Italie, en Sardaigne, un peu de partout, oui. Mais moi, bon, j'ai fait beaucoup de recherches, même dans le Sahara, de peinture rupestre dans le Sahara. Voilà, j'ai fait beaucoup de voyages pour chercher des peintures. Mais bon, après, voilà, c'est des passions. Mais je fais beaucoup de spéléologie de partout, oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé à 12 ans et j'en ai 73. Et je continue encore, donc voilà.
Quelle est votre grotte préférée et pourquoi ?
Non, j'ai pas de grotte préférée, moi. Non, pas spécialement, parce que chaque grotte a son identité et c'est toujours essayer de la comprendre. Voilà, une grotte, on essaie. C'est pas que de la visiter, c'est de la comprendre aussi. Et puis ça aide à en trouver d'autres grottes. On se dit bon, voilà, dans tel secteur il y a telle grotte, telle résurgence. Voilà, on peut chercher des réseaux supérieurs, donc fossiles. Chaque grotte a sa personnalité.
Nous venons de fêter les 30 ans de la découverte de la grotte. Quel avenir lui voyez-vous dans 30 ans ?
La grotte intacte. La grotte comme elle est aujourd'hui, elle sera dans 30 ans la même chose. Voilà, non. C'est un problème de conservation. Aujourd'hui, pour moi, puisque moi j'ai l'habitude quand même de la climatologie des grottes et ce qui me sert à trouver des grottes, le courant d'air. La grotte est protégée, elle est très bien protégée par l'État et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de... Non, la grotte dans 30 ans sera identique à aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de souci.
Merci Monsieur Chauvet d'avoir répondu à nos questions. Nous avons été heureux de vous écouter parler de votre exploit archéologique.
Bon, il y a pas de... C'est pas un exploit, hein, Voilà, c'est une passion. Et puis bon, voilà, j'espère avoir répondu un peu à vos questions. Il n'y a pas de souci. Je suis content pour vous. Merci bien.
Merci et au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Monsieur Chauvet, notre invité du jour. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Fréquence Ajeron. Nous les remercions pour cette interview exclusive et tout ce que nous avons appris. Maintenant, un sujet plus actuel, la guerre russo-ukrainienne. Charles et Léo vont nous parler de la question des frappes aériennes dans ce conflit.
Dans ce monde actuel où la guerre est omniprésente, nous allons parler de la guerre russo-ukrainienne. Plus précisément, la question, pourquoi les frappes aériennes sont-elles utilisées en Ukraine ?
Comme vous le savez sûrement, le conflit russe-ukraine dure depuis 3 ans.
Les Russes lancent des frappes aériennes sur les villes ukrainiennes, surtout Kiev. Dans le pays entier, il y a près de 4 morts par jour chez les civils.
Là-bas, les bombes et les missiles tombent toutes les nuits.
Le 7 septembre 2025, la plus grosse frappe aérienne du conflit a eu lieu. 805 drones et 13 missiles ont ciblé le pays.
La frappe aérienne la plus meurtrière a eu lieu le 8 mars 2022. Il y a eu 47 morts, dont 38 hommes et 9 femmes.
Donc revenons à notre question. Pourquoi les frappes aériennes sont-elles utilisées en Ukraine ?
Les frappes aériennes sont utilisées en Ukraine principalement pour plusieurs raisons, militaires et stratégiques.
Les frappes aériennes en Ukraine sont utilisées à la fois comme outil militaire direct et en jouant sur la peur comme moyen de pression politique et psychologique.
Elles sont menées par les deux camps, bien que la Russie en ait fait un usage beaucoup plus massif, notamment contre des infrastructures civiles, ce qui est largement condamné par la communauté internationale.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.
Merci pour cette chronique car ce sujet est important. Nous voilà donc informés. Une petite pause en musique de Lenny Kravitz, We Want Peace. Nous passons à Yana et Marina qui vont faire une chronique littéraire sur le roman « L'été où je suis devenue jolie ».
Radio Time.
Fréquence à jour.
Bonjour à tous et à toutes. Vous avez sûrement entendu parler de la fabuleuse série télévisée américaine « L'été où je suis devenue jolie ».
C'est une adaptation du roman de Jenny Han, apparu en 2009.
J'ai attendu ce moment toute l'année.
Premier allô.
Ma famille passe l'été dans la maison de vacances de Susanna, sur l'île de Cousins, avec ses deux fils, Conrad et Jérémia. Ils m'ont toujours vue comme une enfant. Mais cet été...
Bon, à tout à l'heure.
Ça va changer.
Wow.
Les acteurs principaux sont Christopher Brinet, qui interprète Conrad Fisher, Lola Tong, qui joue le rôle de Belly, et Gavin Casalegno, qui interprète Jeremiah. Les émotions plus représentées sont l'amour, la joie, la colère et la mélancolie. Un épisode dure environ entre 30 et 50 minutes.
La série parle d'un triangle amoureux formé par trois amis qui se retrouvent chaque été pour les vacances.
Si la série vous plaît, sachez qu'un film sortira début 2026.
En tout cas, nous, on a adoré la série. À présent, retour dans le passé, direction le XVIIe siècle à Londres avec Mika et Kieran. Nous allons en apprendre plus sur The Great London Fire.
Radio Time.
Time.
Radio Time.
Radio Time.
La Minute Anglaise.
I knew it. There was already climate change in 1666. That's probably how the Great London Fire started.
I don't think so. I'm sure that it started in a bakery on Bakery Hall Street. Are you sure you're not telling lies?
Oh, we are not allowed to joke anymore. So you are going to say there wasn't 85% of London that burned in the fire.
Oh, you said something right.
Oh, okay.
Stop joking now. I'm going to say something less funny. 13,200 homes were destroyed. It took 50 years to rebuild the city. The cost was 7,562,928 pounds. In euros, it would have cost 8,655,353 euros.
I could buy 756,292 fish and chips, and since I'm so generous, I would give you one.
So go and get your fish and chips. All of our information comes from the monument site, the monument being London, the Great London Memorial.
If you are interested, you can read London's Burning by Christopher James.
Merci pour cet article très intéressant. Retour au XXIe siècle, cette fois-ci pour parler d'un sujet sérieux dans le milieu sportif.
La rubrique, sport.
La rubrique
sport active.
Anaë et Roméo vont nous présenter leur article sur le dopage et l'impact dans le monde du sport.
Quoi ? Tu te dopes ? Mais tu es fou ?
Bah non, ma marque de shampoing, c'est Garnier.
Bonjour, aujourd'hui on va se poser une question. Pourquoi le dopage est-il de plus en plus utilisé dans le sport ?
Pour information, le dopage a été interdit en compétition en 1965, d'après Wikipédia sur la page dopage. Le dopage est de base utilisé pour se donner de la force, gagner de la vitesse, bref, augmenter ses performances. Les personnes qui utilisent ces produits sont souvent plus addictes à cette performance qu'au produit lui-même.
Ce fut le cas de l'équipe de Lance Armstrong qui a remporté plusieurs Tours de France au début des années 2000 grâce au dopage. Aujourd'hui, le MMA et les arts martiaux mixtes sont les sports où le plus grand nombre de cas de dopage ont été détectés en France. Viennent ensuite le rugby, le cyclisme, l'athlétisme et le football.
De notre point de vue, le dopage limite la confiance que l'on peut avoir dans les résultats de compétitions sportives. Pendant que certains travaillent dur, d'autres se dopent.
Fréquence à Jeron.
La minute latine.
On replonge dans le temps, direction les dieux nordiques pour un article sur Loki. Alix et Mélissandre vont nous parler de Loki.
Bonjour à tous. Il existe plusieurs sortes de Loki. Il existe dans les films Marvel ou encore dans la mythologie. Notre question est pourquoi Loki est considéré comme un dieu maléfique? Mais nous allons expliquer qui est Loki avant. Loki est le dieu de la malice. Sa mère est Lofey, une as, et son père Farbauti, un géant. Il a été adopté par Odin. Retournons à notre question. Pourquoi Loki est considéré comme un dieu maléfique?
Loki est considéré comme un dieu maléfique car déjà le fait qu'il ait tué Baldr, le dieu de la lumière, et coupé la chevelure d'or de Sif n'a pas aidé. Mais le pire est qu'il a dirigé l'armée maléfique du Ragnarok. À la fin, Loki s'est fait tuer par les dieux. C'est ainsi qu'il est mort à la fin de la catastrophe. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Salut et pour les latinistes, salué!
Bravo, on applaudit Alix et Mélissandre. Maintenant, voici notre dernier article, la chronique cinématographique. Nous allons en apprendre un peu plus sur le film Rain Man avec Alexa Nefanelli.
Le film du mois.
Radio Time.
Film et série.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du film Rain Man. Précisément du personnage de Raymond et sa particularité. Salut Fanelli, toi qui es grande fan de Tom Cruise, tu vas nous en parler.
Salut, alors on commence par quoi?
Tu peux nous en dire plus sur ce film?
Le film Rain Man est l'un des premiers à parler de l'autisme. Il est réalisé en 1988 par Barry Levinson, un réalisateur américain. Il met en scène Tom Cruise qui joue Charlie Babbitt et Dustin Hoffman qui interprète Raymond.
Mais de quoi parle ce film?
Après la mort de son père et la faillite de sa boîte, Charlie découvre que l'héritage ne lui revient plus, mais qu'il est offert à l'Institut psychiatrique de Cincinnati. Il y découvre alors son frère caché. Charlie décide alors de l'enlever et ne le ramènera qu'en échange de la somme versée par son père. Il tente de prendre l'avion, mais Raymond fait une crise d'angoisse, ce qui les oblige à traverser les États-Unis en voiture, de l'Ohio à Los Angeles en passant par Las Vegas.
De quoi souffre Raymond?
Raymond souffre du syndrome du savant, aussi appelé savantisme.
Tu peux nous expliquer ce que c'est?
Ce syndrome n'est pas vraiment reconnu par les médecins, mais c'est un syndrome qu'ont environ 10% des autistes. Il y a deux types de savants, les talentueux et les prodigieux. Les talentueux ont des talents remarquables face à leurs troubles, et les prodigieux ont des capacités incroyables même face aux personnes dites normales.
Et Raymond, il est talentueux ou prodigieux?
Raymond est un savant dit prodigieux. Il le prouve lors d'une scène dans un restaurant où des allumettes tombent par terre.
82 quoi, Ray? Tu dois combien?
Cure-dent.
Il y en a plus de 82 par terre.
Il y en a 246.
Regardez la monnaie. Combien il y a de cure-dent dans la boîte?
250.
Pas très loin. Allez, viens, on y va.
246.
Ouais.
Il en reste 4 dans la boîte.
Il en donne le chiffre exact en quelques secondes. Son frère hallucine et l'emmène à Las Vegas où il gagne un paquet d'argent au casino.
Tu as dit que ce film parlait de l'autisme et pas du savantisme, non?
Oui, car Raymond est également autiste. 50% des personnes atteintes du syndrome du savant sont autistes. L'autre moitié a un retard mental ou une autre maladie.
Eh ben merci pour ces explications. Au revoir.
Bisous bisous.
Radio Time,
fréquence à Jeron,
présentée par les élèves
du collège de Vallon-Pont d'Arc.
Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, car on sera là bientôt.